Soudain, ce matin, quand j'ai entendu « Préparez-vous pour le discours sur le Dharma », ce mot « préparer » me parlait curieux. Je me demandais, mais comment on peut se préparer pour un discours sur le Dharma ? Et il y a peu avant, j'avais dit à Joe dans la voiture, quand on était en retard, je ne me suis pas du tout préparée pour le discours sur le Dharma. Et puis j'ai dit, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je ne me prépare jamais. Peut-être je me prépare en ne pas me préparant, disons. Et en fait, faire les courses au Super U était probablement la meilleure préparation qu'il puisse avoir. Se retrouver dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec une liste de choses à prendre. Pour lesquels on ne sait pas quelles vont être leurs utilités véritables, parce que ce n'est pas nous qui avons pensé ces choses-là. Chaque supermarché se ressemble, mais chaque supermarché a ses propres méandres, ses propres étrangités, organisations, etc. Donc il faut trouver. On n'a pas traîné, on a vraiment fait juste ce qui était sur la liste, et puis à la sortie, il pleuvait, donc il a fallu négocier cette nouvelle situation. Et puis, il fallait chercher du pain, et puis il fallait aller à la pharmacie, et puis il y avait un appel, il fallait chercher des éponges. Finalement, on a décidé de ne pas retourner au supermarché pour ça, parce qu'en fait, on est déjà en retard. Bref, on a fait juste ce qu'il y avait à faire, une chose après l'autre. Mettre les choses dans le casier, dans le panier, dans le chariot, je crois, les fruits et légumes, les choisir, les mettre dans les sacs, les peser, comparer les prix, choisir les fromages, toutes les petites choses qu'on avait à faire. Et en fait, il n'y a pas de meilleure préparation que ça pour un discours sur le Dharma. Car il ne s'agit que de ça. Faire ce qu'il y a à faire le moment venu. Rien de superflu. Rien de... pas de détour. On n'était pas pressé non plus. On n'était pas à courir pour un supermarché, mais tout le temps. Charlotte. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des courses comme ça pendant un session. J'ai fait les courses avant le session. Mais pendant la pause, pendant la période de travail, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et donc c'était très... très intéressant comme, comme exercice. Parce que d'habitude, pendant la pause de travail, enfin, pause, période de travail, je vais lire quelque chose ou je vais écrire quelque chose ou je vais m'asseoir et regarder des arbres. Mais je n'ai pas une activité concrète comme ça. Je vais chercher, faire des courses, oui, nettoyer les toilettes. Et je me rends compte que c'est une très bonne préparation pour le discours sur le Dharma. Alors, au moment quand on dit préparez-vous pour le discours sur le Dharma, je sais très bien qu'il s'agit de, entre guillemets, se mettre en place, se lever pour faire les prostrations, changement de position, donc personne qui va sonner les cloches, prendre ce qu'il a besoin. Je sais bien que c'est ça dont on parle. En même temps, ça peut nous donner l'impression qu'il y a une préparation particulière à faire pour recevoir cette chose qui est présentée comme infiniment subtile. Est-ce qu'il faut se préparer pour écouter la pluie? Est-ce qu'il faut se préparer quand on sort et on sent la pluie sur notre visage? Pour écouter la pluie, effectivement, il faut tendre l'oreille, comme on dit. En fait, ce que ça veut dire, c'est de s'ouvrir, de se rendre disponible peut-être à ça. Et c'est ce qu'on fait pendant toute la semaine ici, c'est de se rendre disponible à ce qui est, à ce qui arrive, à ce qui survient, à le changement de situation, le changement de nombre de personnes, les différentes activités, les besoins, dans un petit groupe comme ça, tout le monde doit faire plusieurs choses, et le fait qu'il y ait du va-et-vient est plus est ressenti d'une façon autre que dans un grand groupe. Si on était 25 personnes ici et quelqu'un s'en allait, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. Ça change. Le groupe est totalement différent depuis que Aurélie n'est pas là. Complètement différent. Et pas uniquement par le fait que Elle faisait les vaisselles, elle faisait les cafés, le thé. C'est différent. C'est pas le même groupe. Si on était 25, c'est pareil. Mais on a tendance à ne pas la remarquer de la même façon parce qu'il y a plus de monde et donc c'est un peu perdu dans la foule. Mais c'est aussi différent. Quand de nouveaux gens arrivent, quand si Dominique revient cet après-midi, le groupe est différent. Selon ce qui est servi dans nos bols, le repas est différent. On mange différemment. On ne mange pas le thé de la même façon qu'on mange le muesli. Et là, on est obligé d'être souple, flexible, disponible, d'aller avec ce qui va et ce qui vient. Ce qui est infiniment subtil, c'est que ça se passe à des niveaux, à des degrés, à une vitesse telle que on ne le perçoit pas. De la même façon qu'on perçoit que oui, effectivement, il y a une différence entre le thé et le muesli. On voit bien. On voit bien que si quelqu'un n'est pas là, on change le positionnement des anneaux. Ça on voit bien. Quand il pleut, on voit bien qu'il faut mettre quelque chose. Mais les changements sont infiniment subtils. Et souvent, on est accaparé par notre relation au, je dirais, comme Trungpa disait. Fondamentalement, tout se résume à notre relation à douleur et plaisir. Et notre façon de gérer ces deux pôles, ces deux dualités. Douleur, on peut dire souffrance, si on veut. Lui, il disait pain. Mais, ou le manque et le plaisir, la satisfaction. C'est deux dualités. Donc, la plupart du temps, on est accaparé par ça. Et donc, l'infiniment subtil, aucune idée. Et même parfois, l'énormité, quel est l'opposé de infiniment subtil, l'énormité grossière, on ne voit pas. Parce qu'on est accaparé par plaisir et pain. Et parfois, pain, c'est plaisir. Et quand je dis on est accaparé par ça, on est accaparé par je veux sentir quelque chose, je veux ressentir quelque chose, et il y a d'autres choses que je ne veux pas ressentir. Il y a des choses que je veux expérimenter, et des choses que je ne veux pas expérimenter. Comme on disait hier, oui, quand je sens cette, comment on appelait ça hier, l'effondrement, lâcher prise, je veux garder ça. Je veux rester là. Parce que l'autre, c'est désagréable. Mais cette vouloir rester là, c'est ce qui est désagréable. C'est comme... qu'est-ce que vous pensez? Il me revient de penser quelque chose à propos de ça. Bon, ça va me revenir. On le voit par exemple quand on est assise. Alors, on prend une position. Moi, j'aime pas du tout cette position que je suis obligée de prendre. Bien certes, depuis des mois que j'ai un problème des genoux et donc je suis obligée de faire ça. Et je n'aime pas cette posture. Et donc, de temps en temps, j'essaie un autre. Ça s'améliore, mais c'est toujours pas génial pour le genou, donc je suis obligée de rester comme ça. À la fin de la semaine, je pense que peut-être je serai obligée de... À la fin de la retraite que j'ai faite il y a 2 semaines, les 2 derniers jours, j'étais pratiquement tout le temps assise comme j'aime en tailleur. Il fallait le temps, la souplesse, etc. J'aime pas cette posture, mais en fait, je lâche cette préférence. Et je dis que ça, c'est la meilleure posture, en fait, pour moi. Car je suis stable. J'ai des genoux bien stables par terre, j'ai les fesses bien stables sur le coussin, j'ai les dos droits. J'ai les épaules bien. Ça me permet de me poser sans être accaparé par plaisir et douleur, tout le temps. Ça me permet de ne pas bouger de cet instant, comme je dis. Parce que quand tu commences à bouger de cet instant, je n'apprécie plus cet instant. L'infiniment subtil, complètement couvert par mes idées, mes projections, mon idée de ce que ça doit être dans 2 minutes, pourvu qu'il sonne bientôt la cloche, ou pourvu qu'il ne sonne pas bientôt, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on va faire après? Qui va aller chercher un tel ce soir, ou je sais pas, un tas de choses. J'ai déjà plein de ces choses-là, donc si j'ai une posture stable, au moins il y a ça. Au moins il n'y a pas cette préoccupation avec c'est pas confortable, ou c'est insupportable. Au début, quand j'ai commencé à m'asseoir, c'était vraiment insupportable de rester longtemps assise. Et je croyais parfois que j'allais mourir, mes genoux me faisaient tellement mal. Et j'ai commencé dans un groupe... Mon teacher n'avait pas de groupe à ce moment-là, et donc elle m'a envoyé s'asseoir avec un autre groupe parce que je voulais s'asseoir avec des gens. Et donc ces gens-là, ils n'avaient pas des coussins comme on a avec des sarrasins devant, c'était des coussins bien vieille école avec des capotes dedans, etc. Très inconfortable, je trouvais. Mais probablement tout aurait été confortable. Et c'était les périodes, toutes les périodes étaient les 40 minutes. Et il n'y avait pas d'entretien. Rarement il y avait un talk. Une fois de temps en temps, il y avait quelqu'un qui donnait un talk, mais la plupart du temps, c'était des périodes de 40 minutes avec 10 minutes de marche lent, même pas de marche. Et c'était insupportable par moment. Chez moi, j'étais arrivée à un point où je pouvais rester 20 minutes. Et c'était OK. Et cette groupe était assez stricte, et donc personne ne bougeait pendant Zazen. Et on était face au mur, en plus. C'était... une autre façon d'aborder la pratique, mais en fait, c'était très bien pour moi parce que ça m'a permis de goûter à quelque chose que je n'aurais pas fait toute seule. C'est comme je dis toujours, quand je suis arrivée en France, j'avais une bourse et je voulais venir à Paris. Mais les gens qui dirigeaient les bourses m'ont envoyée à une autre ville, à Clermont-Ferrand, qui est au centre du pays, en Auvergne. J'étais très déçue. Mais bon, je voulais venir en France. On me donnait de l'argent, on payait mon loyer, etc. Donc j'ai fait. Et j'étais contente finalement parce que ça m'a permis de goûter à d'autres choses. Si j'avais été à Paris, j'aurais fréquenté d'autres anglophones probablement, j'aurais goûté la vie parisienne que je connaissais déjà un peu parce que j'avais déjà passé plusieurs mois là. Mais là, c'était autre chose. Il y avait très peu d'anglophones, j'étais obligée de me plonger avec les Français. J'ai vu une autre région, j'ai rencontré d'autres sortes de gens. J'ai eu une autre expérience complètement pendant un an. Là, ce groupe que j'ai fait de méditation, c'était comme ça aussi. J'étais obligée de m'asseoir pendant 40 minutes dans une position sur les coussins, pas bien, sans bouger, face au mur. Face au mur, c'est-à-dire, il n'y a rien sur lequel on peut s'accrocher. Là, quand on est comme ça, bon, c'est aussi un peu difficile pour un moment d'être face à tout le monde. Mais il y a des choses qu'on peut regarder. C'est très subtil, c'est infiniment subtil de différence, mais c'est quelque chose quand même d'être face au mur. Alors, je suis contente que j'ai eu cette expérience. Je sais que j'ai gagné en confiance. J'ai appris la discipline et l'utilité de cette discipline. Et j'ai appris à voir quand j'ai envie de bouger, et pas uniquement physiquement, mais dans l'assise, quand j'ai envie de partir avec une pensée, quand j'ai envie de m'acharner sur un problème, quand j'ai envie de rester dans telle ou telle attitude ou état, entre guillemets, plaisante. J'ai appris de voir ça et de ne pas m'accrocher à ça. Juste que c'était OK. J'ai gagné en confiance que c'était OK. Je pouvais aller de 20 minutes à 22 minutes sans bouger. Je pouvais laisser partir cette pensée, laisser partir cet état agréable. Je pouvais supporter des agréments, l'impatience, quand est-ce qu'il va sonner. Je pouvais rester avec ça, car, un, je l'ai fait et je n'étais pas mort, mes genoux ont survécu. Finalement, c'était le bienfait, disons, d'avoir persisté pendant 40 minutes. J'ai réduit ça à une période de zazen, mais d'avoir persisté pendant 40 minutes sans bouger ou regarder ça et sans bouger de ce regard que j'avais, était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus satisfaisant que d'avoir bougé entre 20 et 22 minutes ou m'acharner sur tel ou tel problème dans ma tête passer mon temps à attendre qu'il sonne la cloche ou je sais pas, toutes les possibilités qui peuvent venir. En fait, en restant dans cette, entre guillemets, sans bouger, qui n'est pas uniquement physique, hein, j'insiste là-dessus, c'était ma libération. C'était cette dégager de l'espace. Je n'étais pas esclave à tout ce qui passait. Je n'avais pas besoin d'écarter ceci pour goûter cela. Je pouvais être ici maintenant avec ce qui est et ok. Ce n'était pas toujours plaisant. Ce n'était pas tout le temps désagréable. Parfois c'était ennuyeux. Mais si je restais avec l'ennui, ce n'était plus ennuyeux. Est-ce que ça vous évoque les choses? On se reconnaît dans ça? Oui.
J'ai une question. Je trouve que même c'est des images. I find that the collapse of this duality between pain and pleasure. There seems to be, I'm not sure, there seems to be a collapse on this duality when unconditioned and impersonal love arises, and that floods everything, and it doesn't really matter in which side of the spectrum we are, because it just floods completely the pleasure and the pain, and it just allows it to go beyond. That's what it seems to me. And in a more simple way, I guess it's when you love everything, every little thing, people, moments, sensations, whatever they are, you love them all, and you go down from the head to the heart. That duality disappears. Now my question is, it's an old question, I always go back to this question. Is it possible to function all the time out of the heart? Not necessarily with rapture, but is it possible to always function out of that impersonal love which collapses all the world?
Si tout change tout le temps, qu'est-ce que tu penses? Et la réponse? Tout de suite, quand on dit all the time, tout le temps, ça implique une dualité. C'est totalitaire, disons. Et totalitaire, ça implique toute puissance, tout le temps. Et c'est problématique. Et c'est être figé dans une dualité. Sur les questions de... Enfin, ce n'était pas une question, mais un constat. Le fait qu'on peut éprouver cet amour impersonnel que tu as décrit, ça, ou un amour pour tout, etc. C'est une expression de cette non-dualité, de cette. C'est une expression de notre aspect non-duel, impersonnel, disons. Et donc, est-ce que c'est parce que on n'est plus attaché à cette dualité, on peut éprouver cet amour. Si on est attaché à nos dualités, à nos positions, j'aime ça meilleur que l'autre, on ne peut pas éprouver cet amour inconditionnel, disons. Parce que dès qu'on approuve pour certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations, à une réalité.
I found it in practice. It happened maybe 2 years ago at the Jones Place. Some coin arose which led me to this, and it eventually transformed a lot my practice. And it's based on, can I include it? Feeling lots of sensations and thoughts, and spontaneously I start asking myself, can I include this or that inside my heart? I require this in life sometimes. I cannot do it all the time. But there is a transformation, very strong, that allows sometimes to slip into that experience. Most of the time it is spontaneous. But I'm not saying that it is fabricated. There is this including. Of course, my question is, can I include it all? Or can I, take the eye out of it, as the practice deepens, can spontaneously, more and more time, I be transported into this possibility of always be including everything more and more?
Well, c'est toujours la même question, Thomas. Hein?
Il l'a dit tout à l'heure. C'était la même question.
Oui, c'est vrai qu'il y a un approfondissement, une souplesse que toi, dans ta pratique de yoga, tu es plus souple que tu étais il y a un an, où tu peux faire d'autres choses que tu ne pouvais pas faire avant. Et c'est pareil avec cette pratique, c'est comme avec toute pratique. Effectivement, on approfondit, on devient plus stable, notre conscience s'élargit. C'est pas pour ça qu'on le fait, mais ça se passe, oui, effectivement. Mais le fait est que la même question de always, toujours, ça change. Et quand on est dans une attitude, et on est tous, de vouloir plus, je veux que ce soit plus profond, plus large, plus grand, plus intense, etc., etc., on va dans le sens opposé. Donc, c'est. Mais c'est notre tendance à tous à vouloir ça. D'une certaine façon, c'est ça notre pratique, de voir ça et de travailler avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Paradoxically, we know that what we want, it goes on the opposite side. But paradoxically, it still moves in that direction.
Oui, si on pratique, si on s'applique, etc. Absolument. Et c'est malgré nous, disons, d'une certaine façon, que ça se passe.
Malgré nous means ourselves. Without
despite ourselves. Que on, c'est pas grave. C'est quoi?
Beyond our control.
Voilà. C'est toujours spontané. Toujours. Toujours un accident, comme Masumi Oshii disait. Que le pratique cultive le terrain pour que les accidents puissent arriver. Mais c'est un accident. C'est une façon de dire parce que ça ne veut rien dire en fait. Ça, nos langages, nos mots, toute notre pensée dualiste ne peut absolument pas décrire ce dont on parle. Ça ne peut pas. Mais quand on le goûte, quand on a l'expérience directe, c'est clair. Et les mots, on s'en fiche. Vraiment. Comme avec des formes. C'est que... Ok. Quelqu'un m'a demandé au Portugal, ou quelqu'un juste ici, m'avait demandé à propos des formes. Parce que quelqu'un disait, oui, tu es beaucoup plus souple avec des formes et tu as beaucoup moins d'attachement aux formes que ton maître, par exemple. Je dis, c'est vrai, il y a des raisons générationnelles, juste des préférences ou façon esthétique, personnelle, etc., etc. Mais fondamentalement, pour moi, c'est parce que moi, je suis venue à cette pratique ayant déjà vu ce que je vous parle, de quoi je vous parle, je savais déjà quand je suis venue à cette pratique. J'avais déjà une expérience de ça. Et donc, toutes ces formes, qu'on met une robe ou non, qu'on s'habille en noir ou non, qu'on fait des cérémonies ou non, qu'elle sonne la cloche de cette façon-là ou de cette façon-là, qu'on rentre de gauche ou de à droite, ça ne dépend pas de ça. C'est utile. Ce cadre est très utile. Et c'est ça que j'ai appris. C'est très utile. En fait, j'avais envie de cadre. C'est pour ça que je suis venue à ça. J'aurais pu faire... J'ai lu un livre récemment d'un Français qui est journaliste, comme moi, qui, en mai 68, boum, le monde s'éclaire. Le rideau se lève, tout ce qu'on peut dire, il voit les choses telles qu'elles sont. Et il passe les 40 ans depuis à faire des recherches, à essayer de comprendre ça, etc. Il découvre qu'en fait, c'est ce qui est décrit dans les enseignements bouddhistes. Il fait des recherches dans le bouddhisme, etc. Il va jusqu'au bouddhisme primitif, etc., etc. Mais il n'est jamais rentré dans un cadre pratique. Il n'est jamais maître. Il n'avait jamais partagé ça avec d'autres, dans une communauté, etc., etc. Il n'éprouvait pas le besoin. Il savait tout ça. C'était évident. Et donc, il n'avait pas besoin de ça. Moi, j'ai voulu un cadre, j'étais un être plus social, je voulais partager avec des autres, etc. Mais je sais, la partie la plus intime en moi sait que ça n'a rien à voir avec ces formes-là. Ce que je vous raconte, ça n'a rien à voir avec ces formes. C'est utile, c'est pour ça que je le maintiens. Et c'est très astucieux par moments. Le Ryuki est génial. C'est très très astucieux. Et d'autres. Et l'emploi du temps. Génial. Je n'ai pas vu meilleur. J'ai fait beaucoup de retraites différentes. Ateliers, différents groupes, machin, etc., etc. Cette schedule-là, cette planning-là, je trouve, pour mes intentions de faire asseoir les gens, pour qu'ils puissent avoir une expérience de les choses telles qu'elles sont, ce cadre-là, cet emploi du temps-là, c'est bon. Ça ne veut pas dire que demain, je vais le changer. Peut-être je vais le changer. Peut-être que je vais évoluer et, comme Freddy m'a dit hier, j'ai l'impression que tu es sur une pente glissante. Avec des formes que j'élimine au fur et à mesure, etc. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être je vais en rajouter. Ou peut-être je vais les changer. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est ça. Et je vois comment ça, entre guillemets, ça marche. Je vois ce qui se passe pour les gens. Pour des centaines de gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai pratiqué. Et donc, l'expérience très concrète. Et j'essaie de faire confiance à ça, à l'expérience très concrète. Parfois je me gourre, parfois je... Je sais pas. Mais même, il n'y a pas d'erreur aussi. C'est ok. C'est ce que je pensais faire à ce moment-là et c'était pas ça. Donc je fais d'autres choses, etc. Et c'est le même pour nous tous. Si je peux vous transmettre quelque chose, et je ne peux pas vraiment vous transmettre quoi que ce soit, mais c'est ça. Cette expérience de faire avec n'importe quelle situation. Faire avec. Voir les choses telles qu'elles sont et agir en fonction de ça.
Ouais, j'aurais une question à ce propos. Bon, au niveau de mon quotidien, je vois bien comment tout devient plus fluide, il y a ça à faire, je le fais, je ne me pose pas de questions. Là où par contre, je me pose des questions, c'est en termes de responsabilité, quand ça touche quelqu'un d'autre. Un enfant par exemple. Mmh. Il y a une situation, qu'est-ce que je dois faire, je veux dire. Quelquefois c'est évident, d'autres fois c'est pas évident du tout. Où s'arrête ma responsabilité? Où commence celle... Enfin, c'est même pas... C'est mal dit en plus. On pourrait quelque part penser, parce que la situation est difficile pour l'autre, je le vois, ce que j'ai à faire, c'est de venir aider, donner un coup de main, etc. Dans ces moments-là, c'est peut-être pas judicieux et c'est peut-être empiéter sur la responsabilité de l'autre, prendre trop de responsabilité. En fait, ma question, c'est une question de responsabilité par rapport à une situation donnée. Quand il s'agit de faire les courses, de remplir un caddie, de... bon, c'est... Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, oui. Et c'est vrai que faire les courses, remplir le caddie a l'air plus simple que d'autres situations dans lesquelles on est émotionnellement impliqué d'une façon autre. Ou...
Surtout quand ça implique quelqu'un d'autre.
Oui, oui.
Quand ça n'implique que moi, même émotionnellement, je peux, avec, même si ce n'est pas tout de suite, voir ce qui se passe, gérer quelque part, voir et accepter. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre et d'un enfant, ça m'aide beaucoup, beaucoup plus difficile.
Oui, oui, c'est ça que j'ai voulu dire, je comprends. En fait, faire les courses et remplir les caddies, ça implique d'autres gens aussi. Ça implique la personne avec qui je fais les courses, les gens pour lesquels je fais les courses, tous les gens que je croise dans les allées du supermarché, la caissière, les gens qui ont produit ces choses-là, etc. D'autres sont toujours impliqués, mais ma niveau d'implication avec des gens est différente que s'il s'agit des enfants. Évidemment.
Et de responsabilité aussi.
Oui, oui, je viens. Et moi, j'ai une implication plus intense, disons, avec mes enfants qu'avec les tiens. Ou avec le fils de Kathleen. la fille de Charlie, de Freddy. Il y a différentes. Et mes responsabilités sont différentes aussi. Étant donné la situation, les gens, etc. Ça change tout le temps. Et ça change selon l'âge de l'enfant. Quand un enfant est grand, on a moins de responsabilités vis-à-vis eux, où les responsabilités sont différentes que quand ils sont petits. Quand c'est un nouveau-né, on est responsable de tout pour cet enfant. Mais vraiment, tout. Cet enfant ne peut pas survivre si je ne suis pas là. Ou quelqu'un n'est pas là. Quand l'enfant grandit, c'est moins. Il apprend à marcher, donc on n'a plus à le porter tout le temps. Mais il ne sait pas où il faut marcher et où il ne faut pas, donc il faut le diriger. Tu avais deux enfants, tu sais, c'est différentes étapes. Et donc les responsabilités changent. Pareil, la responsabilité de la caissière n'est pas la même que la responsabilité de la personne qui met les choses dans le rayon. Ou la responsabilité de la personne qui paye n'est pas la même que la personne qui a livré les choses dans le supermarché. C'est différent. Ultimement, je dirais que si on voit, et ça c'est le cas idéal, si on voit les choses telles qu'elles sont, on n'a pas de question. On voit quelle est ma position, quelle est la position de l'autre. On a vu, si on voit les choses telles qu'elles sont, on a vu l'unité et on a vu la diversité. Donc on voit qu'il y a différentes positions. Quand on est impliqué émotionnellement, et je dis que c'est l'idéal parce que, pas toujours évident, hein. Quand on est impliqué émotionnellement, c'est là le plus difficile. Parce que c'est tellement fort, non, les choses émotionnelles. C'est tellement intime, surtout quand c'est nos enfants, ou nos maris, ou notre partenaire, ou je sais pas, nos parents. Et ça c'est plus compliqué, disons. Et tu poses cette question parce que tu le vois. Mais ça reste pareil. Chacun est à sa place et il s'agit de voir la situation et quel est le rôle de chacun dans cette situation. Donc, dans le cas des parents et des enfants, c'est un peu comme le rôle du maître. C'est moi, ma position, ce n'est pas de dire tu es là et c'est bien. Ou c'est là où tu es et c'est mal. C'est juste de refléter et dire c'est là où tu es. C'est ni bien ni mal. C'est là où tu es. De refléter pour l'élève là où il est. C'est ni bien ni mal, c'est son chemin et on est sur ce chemin ensemble et j'indique ce que je perçois et tout. Dans le cas de l'enfant, c'est un peu similaire, surtout quand les enfants sont plus grands. Je donne un exemple de mon fils, à une époque l'année dernière, 14 ans, difficile. Il ne voulait rien foutre à l'école, etc., etc. On disait, ok, tu ne veux rien faire, il y a des conséquences. Ça ne sert à rien que j'ai fait pour lui. Ça ne sert à rien. Parce que si je fais pour lui, bah, tant qu'à faire, moi je vais suivre les cours au collège et passer les examens pour lui aussi. Ça ne sert à rien non plus qu'on l'impose et on s'assoit à côté de lui pendant qu'il fait ses devoirs, etc., etc. Parce qu'il ne va jamais apprendre à faire pour lui-même. Ce qui est important, c'est se rendre compte qu'il y a des conséquences. S'il fait ceci, il y aura des conséquences. S'il ne fait rien à l'école, il ne va plus pouvoir rester dans cette très difficile école, niveau très élevé. S'il ne fait pas ça, il travaille, il ne peut pas rester là. Ce qui implique qu'il ne peut pas rester avec ses copains. Il ne peut plus rester là et faire du théâtre qu'il adore faire dans cette école. Il ne peut pas faire comme sa sœur, il veut suivre comme sa sœur, etc. Donc, toutes ces conséquences. À la suite, il peut peut-être pas faire les études qu'il veut faire pour une carrière qu'il envisage, etc. On lui dit ça, il ne fout toujours rien. Il fallait qu'il, lui, il voit les conséquences, qu'il expérimente les conséquences directement. Et c'est extrêmement difficile pour un parent de voir ça. Extrêmement difficile de voir cette gosse de 14 ans. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était essayer d'imiter les dégâts. Et c'est-à-dire l'écouter, le soutenir, l'encourager, etc., etc., de différentes façons. Et finalement, il s'est rendu compte de lui-même que ce n'est pas ça qu'il voulait. Il ne voulait pas être le dernier de la classe. Il ne voulait pas être le petit con qui fait des blagues et dérange tout le monde dans la classe parce qu'il trouve que c'est cool. Il voyait que ce n'était pas cool. Il voyait qu'il ne voulait pas quitter cette école. Il voulait rester là. Il voulait travailler. Il voulait avoir des résultats. Ce n'est pas la meilleure de la classe, mais il ne s'agit pas de ça. Il voulait faire ça. Et donc, l'année d'après, il a goûté à ça. Il avait beaucoup de choses à rattraper parce qu'il n'a pas travaillé l'année d'avant. Mais bon, peu importe. C'est un exemple. J'espère qu'il va me pardonner de l'avoir donné cet exemple de sa vie intime. Mais bon. Pour les parents, c'est très difficile. Très, très difficile. Mais si on peut rester dans cette... On agisse pour le bien de l'enfant. Il s'agit, et pour moi aussi en tant que maître avec des élèves, c'est pareil. Qu'est-ce qui est dans son bien? Et dans son bien, je ne dis pas par rapport à bien ou mal, mais qu'est-ce qui favorise son développement? Qu'est-ce qui favorise sa maturité? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il peut se prendre en charge? Et être quelqu'un d'heureux dans sa vie, même si ce n'est pas le bonheur pur, mais qui peut conduire sa vie et faire ce qu'il a à faire pour être ici avec ce qu'il est. Donc il s'agit, quand on regarde ses responsabilités, c'est quelle est mon intention? Si mon intention c'est de tout contrôler, ok, je suis responsable pour tout, et donc je vais faire les devoirs pour mon fils, pour qu'il puisse passer dans le niveau supérieur, mais il va galérer dans le niveau supérieur. Je vais être obligée de faire les devoirs de nouveau dans le niveau supérieur. Je vais toujours tout faire pour lui, qu'à l'âge de 20 ans, ou 21 ans, ou 22 ans, ou 25 ans, quand j'en ai marre de tout faire pour lui, il ne va pas savoir faire pour ça, pour lui-même, parce que j'ai toujours fait pour lui. Bon, c'est le cas extrême. Je ne sais pas si c'est pas toujours comme ça, mais bon. Mais le même pour les élèves. Si je fais tout pour eux, ça sert à quoi? Ça n'a aucun sens. L'intention, ce n'est pas que je fais des choses pour eux, c'est qu'ils fassent pour eux-mêmes. Moi, je pouvais, et on fait la cuisine dans les Séchines de nombreuses fois, je pouvais probablement prendre en charge la cuisine, faire tous les repas, toute seule, pour 10 personnes. Mais à quoi bon? À quoi bon? C'est pas mon rôle. J'ai proposé d'aider Kathleen pour lui transmettre un savoir, et puis à la suite, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais... Donc, quand tu parles de responsabilité, il s'agit de voir la situation et quelle est ton intention dans cette situation. Est-ce que c'est d'empêcher que l'autre souffre? Souvent, c'est ça. Mais la souffrance, on apprend beaucoup de choses. Hein. Ça revient à ce que j'ai dit au début avec mon histoire de rester là pendant 40 minutes. Période après période après période, face au mur, avec rien, pas de soutien, sur ces coussins horribles. J'ai appris beaucoup de choses. Et je sais que c'est très, très difficile. Parce qu'il s'agit de notre propre souffrance. Je sais.
J'apprécie beaucoup tout ce que tu viens de dire. Et je voulais, parce que moi je suis un peu dans, je ne sais pas dans quelle situation tu es vis-à-vis de ton enfant, mais moi je suis dans une situation vis-à-vis du mien. Et je pense beaucoup à ça. Moi j'ai trop aidé mon enfant jusque-là. Et j'étais dans une situation où je me suis rendu compte que, en fait, j'avais perdu confiance en lui et que c'était ça le noyau de mon problème avec lui. C'est en fait que je ne voyais pas quand il s'est débrouillé, parce qu'il s'est débrouillé pas mal dans beaucoup de choses, moi je voyais que les choses que moi je projetais, je voulais qu'il soit responsable de ci, de ça, de ça, il ne le faisait pas. Donc, across the board, je me disais, il n'est pas responsable, il n'a pas mûri. Et c'était en me rendant compte que je ne voyais pas la vérité, en fait. Je ne voyais pas sa vérité de lui. Et je ne dis pas que je m'en suis sortie là, de cette situation, pas du tout. Mais c'était quelqu'un qui m'avait dit que quelqu'un lui avait conseillé avec ses fils d'avoir confiance en lui. Et ça a fait vraiment la lumière au-dessus de ma tête. Je me dis, c'est vraiment ça. Je n'ai pas confiance en lui. Il faut que I have to trust him. Et même s'il fait des erreurs, il a droit à ses erreurs. Moi, j'ai eu droit à mes erreurs.
Exactement.
Je me suis cassé la gueule, mais j'ai beaucoup appris. Et je ne peux plus le protéger. Moi, je pense que j'ai essayé trop de le protéger. J'avais des bonnes raisons pour le faire, mais je ne m'en veux pas de l'avoir fait. C'était bien à ce moment-là, mais je suis allée trop loin. Et c'est maintenant, c'est lâcher prise, mais ce n'est pas l'abandon. Parce que moi, je sentais que je l'abandonnais. Si. J'ai lâché prise. Et en fait, non, c'est de le respecter. Sans je vais toujours absolument être là comme soutien. Hein. Et comme j'ai dit, c'est work in program, hein, progress. Mais ça m'a beaucoup aidé à réaliser que je peux avoir confiance en lui et que je dois avoir confiance en lui.
Ouais, c'est vrai. Et c'est pas évident, parfois.
C'est un peu la même chose, je crois. Pour moi, ça a été difficile les 40 minutes, parce que je ne suis pas habituée. Donc, à un certain moment, je me suis dit, je dois avoir confiance que j'arrive à la fin.
Voilà. Pareil. Pareil. Toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que ça revient à une histoire de confiance. En soi, dans l'autre, dans l'instant, dans l'univers. Confiance dans l'univers, en fait. C'est... Confiance en tout. Et c'est très difficile. Parce qu'ultimement, comme on ne se voit pas, comme tu dis, tu ne voyais pas ton fils, on ne se voit pas non plus. On ne voit pas l'univers. On ne voit pas que tout est là. Tout est là. Tout est parfait. Il n'y a pas de... Quand je dis tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas.
Ouais.
Mais on peut avoir confiance dans ça aussi. Ouais. Et c'est là où je dis que... bon, c'est un peu... c'est peut-être un peu faussé ce que j'ai dit parce que je n'ai jamais pratiqué sans enfant. Quand j'ai commencé cette pratique, ma fille avait, je sais pas, elle avait 3 ou 4 ans, je crois. Et donc j'avais toujours des enfants. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure pratique qu'on puisse avoir, c'est un enfant, une vie familiale. Même ceux qui n'ont pas d'enfant, c'est pas grave, parce que vous avez une vie familiale ou relationnelle, que ce soit avec des partenaires, avec du boulot, des collègues, des parents, les frères et sœurs, etc. C'est la meilleure pratique. Oui.
Moi, je dirais que, surtout avec les enfants, notre problème avec l'idéal est très présent. On a un idéal là pour soi-même, dans notre vie individuelle. Mm. Pour les enfants, c'est l'idéal, il est super présent. Il est même plus présent pour eux, on veut mieux que nous, c'est l'idéal. Mais c'est le problème qu'on a déjà individuellement avec l'idéal. Hein.
Oui, parce que l'enfant, dans ces cas-là, c'est une extension de nous-mêmes. Et donc, et ça, c'est très problématique pour les enfants. On a tous souffert de ça, n'est-ce pas ? De nos parents qui nous projetaient les choses, qui voulaient qu'on fasse ceci ou cela.
Et on peut toujours en souffrir.
Oui, tout à fait. C'est juste une extension de nous-mêmes. Donc, c'est des projections qu'on a, des idées qu'on a déjà sur nous-mêmes, qu'on projette exactement sur les autres, ou comme tu dis, on ne le voit pas. On ne voit pas vraiment l'autre. Et ça, c'est le même si c'est un enfant, si c'est un collègue, si c'est les caissières super rue. Moi, maintenant, je réfléchis, je ne sais pas si je me souviens, mais j'ai du mal même à me souvenir quel était le visage de cette caissière. Est-ce que j'ai vraiment vu cette caissière super rue? Je ne sais pas. Je sais simplement quand je lui ai demandé les cartons, elle avait dit, comme si c'était la chose la plus absurde qu'on avait dû demander. Non. Non. Bon. Est-ce qu'on voit vraiment l'autre? Est-ce qu'on voit vraiment soi?
Et les accepter tels qu'ils sont.
Ouais. Et s'accepter quoi? S'accepter soi-même.
Pas accepter l'autre tant qu'on ne sait pas accepter soi-même. Ouais. Ouais.
Et ce n'est pas évident. Tout en recevant l'autre. C'est-à-dire ne pas dire ok, t'es grand maintenant, je m'occupe plus. T'as plus rien à voir avec moi. Non. Le recevoir, l'écouter. Ressentir ce qu'on ressent vis-à-vis de ça. La peine qu'on a, la difficulté qu'on a, la frustration, la colère, je ne sais pas. Les doutes.
J'ai une question sur la colère. Tout d'abord, j'étais en train de penser avant, quand on parlait d'amour, que parfois, pour moi, c'est difficile de je vois l'amour comme être gentil. D'aider quelqu'un d'autre, mais je trouve assez difficile cette partie de parfois démontrer de ne pas être d'accord, par exemple, ou et là dedans par exemple, dans le cas de la colère, parfois je me retrouve en difficulté de la reconnaître, ou quand je la reconnais, est-ce qu'il faut, dans cette idée de l'amour, dire « Ok, je suis en colère » et la défaire, ou quand est-ce qu'il faut démontrer la colère ? Ou il faut la manifester, ou pas agir sur la colère de sang. Peut-être c'est là où est la difficulté. Comment on gère la colère, que ce ne soit pas la manifestation voilà, ouais, de réactif. Et si ce n'est pas réactif, est-ce que c'est juste accepter qu'on est en colère? Et quoi faire avec? Je trouve ça très difficile parfois, et même quand je me dis ok, je la reconnais, je vais essayer de d'en parler avec la personne ou la situation, de ne pas juste la laisser là ou de ne pas juste l'exprimer réactivement, je fais toujours, j'ai toujours beaucoup de difficultés à ne pas y tomber, à ne pas. Voilà.
Oui, la colère, particulièrement pour les femmes ont plus de difficultés avec la colère et les hommes avec la jalousie. Les hommes ne veulent pas éprouver la jalousie ou l'exprimer. Non, moi, je ne suis pas jalouse. Hein. Les femmes, c'est de colère. C'est une généralité, mais souvent, c'est ce genre de dynamique. Et le fait est que dans la, c'est curieux parce que dans le schéma tibétain, hein, il y a des énergies qui sont névrosées et illuminées, disons, et donc quand ils sont transmutés, la face sombre ou qu'on voit comme négatif, colère, quand c'est transmuté, c'est la connaissance transcendante, c'est la clarté absolue. On voit les choses telles qu'elles sont. C'est Manjushri avec son épée qui coupe. Et souvent, c'est cette connaissance, sagesse, qui est associée avec le masculin. L'énergie névrosée de la jalousie, quand c'est transmuté en quelque chose d'illuminé, c'est la compassion ou l'amour inconditionnel. Ce qui est associé avec le féminin. Donc, il y a quelque chose là où les hommes, ils ont des difficultés avec cette chose féminine et les femmes, des difficultés avec cette chose masculine. Dans les deux cas, quand c'est dans cette aspect illuminé, on parlait de l'amour. Thomas, l'amour impersonnel. Il y a aussi la colère impersonnelle, qui est, disons, la colère illuminée. C'est-à-dire que c'est juste fonction de les choses telles qu'elles sont, et boum, c'est comme une éclair. Il n'y a pas d'attachement émotionnel à ça. Il n'y a pas de. On ne va pas se complaire dans la colère. Et souvent, les gens qui sont coléreux ou. Coléreux, on dit, ou colériques ? Coléreux. Il y a une complaisance dans ça. Ils sont accrochés à ça, ils aiment ça. Ils sont figés là, dans la colère. Et ne pas vouloir être en colère, c'est juste de face, le pile et face de ça. C'est un attachement à la colère aussi, mais c'est plutôt un refus. Si on accepte, comme tu dis, c'est reconnaître, ok, je suis en colère, c'est un pas vers, je ne suis plus attachée à ça. Je ne suis plus attachée à, je suis un peu plus libre vis-à-vis ça. Je n'ai pas obligé de le écarté et je ne suis pas obligée d'y aller à fond et continuer, m'acharner à être en colère et garder ça. Si je peux juste, ok, c'est ça. Et puis regardez quelle est l'origine de cette colère. Souvent, derrière la colère, il y a peur. Peur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir maîtriser, de ne pas pouvoir contrôler. Dans les schémas tibétains, les gens qui ont cette qualité, l'ajra de colère ou de clarté, sagesse claire, qui ont une affinité dans cette famille, disons, c'est souvent les gens qui, comme ils voient clair, ils sont en colère quand les autres ne le voient pas. Ou ils sont en colère parce que leur perception ne triomphe pas. Et leur perception peut se manifester comme contrôlée. Ils n'arrivent pas à contrôler et donc ils sont furieux. On est dans un embouteillage, on est furieux. On n'arrive pas à faire comme on veut. Les gens ne vont pas assez vite. Là, au Portugal, c'est quelque chose de conduire sur l'autoroute. Les gens, ils vont très vite et ils sont tous plus agacés que les autres pour doubler. Je ne sais pas si Thomas et Lisa sont d'accord avec ça. C'est effrayant. Il y avait toujours une rangée de voitures derrière nous parce que nous, on respectait la vitesse. Et les autres, ils attendaient. Une espèce de colère de ne pas pouvoir maîtriser, de ne pas être plus fort que les autres, ou plus vite, ou plus intelligent. Encore une fois, c'est ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Bon, parfois, on peut être en colère parce que les enfants en Somalie n'ont pas à manger. Ou, je ne sais pas, en colère parce que... je ne sais pas, mon enfant a versé un verre de coca sur mon ordinateur. Je ne sais pas, un truc stupide.
Parce que les choses ne se passent pas comme on voudrait.
Exactement, exactement. Et, bon, ça sert parfois, pour un enfant, ça sert qu'il comprenne qu'il y a des choses, il a besoin de savoir qu'il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Mais est-ce qu'on peut, donc, ok, ne pas se complaire dans ça? Ok, je l'engueule parce qu'il a versé le coca sur mon ordinateur. Mais je n'ai pas besoin de rester en colère toute la journée et de l'engueuler pour d'autres choses à la suite. Parce que probablement, hein, parce qu'il y a des parents qui font ça, donc il y a une chose qui ne va pas et puis d'autres, tout est ressentiment sort. C'est parce qu'on avait contenu tout ça pendant longtemps et puis, bah! Mais si c'est juste dans l'instant, on l'exprime et après c'est fini. Ça n'est plus. C'est pas la même chose. Et donc si on regarde nos peurs, nos craintes, nos attachements, etc., probablement on va voir d'où ça vient cette colère et probablement ça va se dissiper. Notre attachement à la sagesse. Que les autres voient clair, ou que les autres perçoivent combien de moi je suis intelligente, ou je ne sais pas, et ils ne la perçoivent pas, donc je vais être en colère contre cette personne. Mais si je n'ai pas cet attachement à comment les autres vont me voir, ou que les autres doivent voir ceci ou cela, je ne suis pas en colère. Ils sont juste là où ils sont. Les choses sont juste telles qu'elles sont. Je n'ai pas besoin de les diriger vers ceci ou cela. Ça clarifie un peu.
Office life is perfect for that.
Quoi?
Office life
is perfect. C'est vrai. C'est vrai. Et il y a beaucoup. Oui, oui. Et il y a beaucoup de gens en colère dans les bureaux. En colère contre leurs collègues, mais en contraire, c'est souvent contre leur chef. Je ne sais pas, c'est... Oui. C'est très bien. Family life aussi, hein. Vivre dans la famille. Bon, ça. Conduire sur les autoroutes au Portugal aussi.
Ou à l'Italie.
Oui.